Première partie. Merci pour le courage. Chapitre 5. Gina, 10 juillet 2018. J'avais prévu de commencer par New York, mais j'ai changé d'avis. Mon petit Adrien d'Anguin, je lui ai donné ce titre de noblesse, ça le fait bien marrer, doit d'ailleurs appeler demain l'agence de détective pour décaler le rendez-vous. J'avais noté les horaires de vol en partance de Paris, mais j'ai tout balancé à la poubelle. Je partirai de Nice. Entre-temps, j'ai fait l'acquisition de l'un de ces engins électroniques du diable. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, mais Adrien m'a expliqué l'essentiel. Comment téléphoner, et puis comment demander oralement un truc à la machine, qui me répond d'une voix métallique horripilante. C'est quand même magique, ces petites bêtes. Ce quai de gare est une fournaise. Le contraste avec le TGV surclimatisé est saisissant. Si je n'en faisais pas une affaire de principe, je serais à deux doigts d'enlever mes collants. Sur le quai, je prends tout de même le temps d'ôter mon gilet et mon foulard, puis je me dirige vers le hall. Je refuse poliment que l'on m'aide à porter ma valise, tout en pensant que je dois vraiment avoir une allure de grabataire pour qu'on me propose ça à tout bout de champ. Bien sûr, je n'ai plus la force de mes 20 ans, mais je m'adapte. J'ai acheté un bagage taille cabine dans lequel je n'ai mis que l'essentiel. Quelques tricots de peau, des chemisiers fleuris, des jupes longues, 4 gilets et puis des culottes, des collants, une brosse à dents, mes comprimés pour le cœur, un gant de toilette, un savon. Ça n'est pas parce qu'on a dépassé la date limite dans l'esprit des gens qu'on ne sait plus se débrouiller toute seule. L'âge, c'est dans la tête. Bon, pas complètement. Il y a aussi un peu d'évolution physique, il faut bien le reconnaître. Mais globalement, je dois dire que j'ai géré mon projet comme une jeunette jusque-là. Si je m'écoutais, je serais presque fière de moi. La première étape risque d'être riche en émotions. Une nuit de sommeil me fera le plus grand bien. J'espère seulement qu'il y aura une bonne moustiquaire à la fenêtre de ma chambre d'hôtel. Je déteste les bestioles. Voilà les pensées qui me traversent alors que le taxi sillonne les routes de Camargue et que déjà les tours d'Aigues Mortes apparaissent au loin, paisibles et majestueuses dans le jour déclinant. Aujourd'hui, cette petite ville proche des Sainte-Marie-de-la-Mer est une destination prisée. Les visiteurs y admirent, entre deux baignades estivales, des ruelles médiévales charmantes, animées, pittoresques. Protégées du mistral par de hauts remparts, l'âme de la vieille ville tranche avec la rudesse poétique des paysages alentour, essentiellement constitués d'étangs et marais salants. Voilà pour le dépliant touristique. Comment imaginer, dans un lieu en apparence si tranquille, l'irruption de l'horreur pure? En août 1893, Aigues Mortes fut le théâtre d'une abominable chasse à l'étranger, entrée dans l'histoire honteuse de la France sous le nom de « Massacre des Italiens ». Le bilan officiel fit état de 9 morts, mais les historiens parlent d'une 20aine de victimes, auxquelles il faut ajouter 100aine de blessés. Parmi les travailleurs italiens embauchés pour la récolte du sel cet été-là, se trouvait un beau jeune homme, de 18 ans à peine, une force de la nature, fuyant la misère des montagnes du Piémont. J'observe la lumière orangée qui baigne les murs d'enceinte d'Aigues Mortes et un frisson me parcourt. La chaleur n'y change rien. Je ne peux m'empêcher de frémir d'effroi lorsque je tente d'imaginer ce qu'il a vécu. Ce gamin, c'était mon grand-père. C'est pour lui que je suis ici. Il s'appelait Giovanni Ligi. Ce que je sais de Giovanni, je le tiens d'une longue missive qu'il a dictée à un écrivain public quelques semaines avant sa mort, et qui ne m'est parvenue que 77 longues années plus tard. Un froid matin de décembre 2015, j'ai reçu un pli recommandé émanant d'un antiquaire niçois. L'homme avait déniché, en vidant le grenier d'une bâtisse des environs, une grande malle contenant des dizaines de lettres orphelines, toutes datées de 1938. Sensible au trésor affectif que ces courriers pouvaient représenter, l'antiquaire s'était mis en tête d'en retrouver les destinataires. L'émotion qui m'a étreinte lorsque j'ai découvert le contenu de l'enveloppe est indescriptible. Ma Gina, ma petite fille, mon amour, je voudrais te confier une histoire, la mienne, celle de ton papa, la tienne. Tu es encore trop petite pour que je te la raconte, et ton père ne la connaît pas. Il est parfois plus facile de se livrer à ses petits-enfants qu'à ses enfants. Dans sa lettre, Giovanni évoque la dureté de son enfance dans le Piémont, son travail comme garçon de ferme dès l'âge de 12 ans. Puis, il raconte sa rencontre avec Maria, ma grand-mère. Maria qu'il aime à la folie. Maria, qu'on lui fait épouser en toute hâte quand elle se découvre enceinte. Maria, qui meurt en mettant au monde leur fils unique, Angelo, mon père. Giovanni n'a pas 18 ans et il est déjà veuf. À la douleur du deuil vient se greffer la nécessité de nourrir son fils. Ses propres parents refusant de l'aider, un enfant conçu hors mariage, la honte est trop grande. On conseille à Giovanni de vendre Angelo, de le déclarer mort et de le confier, à Gênes ou ailleurs, contre une somme d'argent. Les enfants ainsi abandonnés forment quelques années plus tard une main-d'œuvre capable de se glisser dans les tunnels les plus étroits des mines de charbon. Mais Giovanni refuse. Ce bébé est tout pour lui, son bonheur, sa douleur, et une peur panique qu'on le lui vole s'immisce dans son esprit. Alors, il prend la décision de le marquer au fer rouge, afin de toujours pouvoir l'identifier. Il fabrique un instrument constitué de petites pointes acérées, dessinant en lettres capitales le seul mot qu'il sache écrire, son nom, Lisi. Il se l'applique d'abord à lui-même, sur le bras gauche, enduisant la plaie d'huile chaude et de suie pour que le marquage se transforme en tatouage. Puis vient le tour d'Angelo. Le bébé crie, bien sûr. Mais que valent quelques pleurs contre la promesse de ne jamais le perdre? En 1893, à la belle saison, Giovanni décide d'aller se faire embaucher de l'autre côté des Alpes. Angelo a presque 6 mois lorsque tous deux parviennent à Aigues-Mortes, ce bout du monde infesté de moustiques où le travail abonde. En plein cœur du mois d'août, la Compagnie des Salins du Midi emploie plus de 1 000 hommes pour assurer la récolte du sel en un temps record, le moindre orage pouvant suffire à détruire la production annuelle. Je n'avais jamais travaillé dans des conditions aussi extrêmes. 7 jours sur 7, 12 heures par jour, en plein soleil, nous battions le sel à la pioche, avant de le charger à la pelle dans des brouettes de 100 kilos qu'il fallait ensuite pousser sur d'étroites rampes de bois, parfois hautes de plusieurs mètres, jusqu'au lieu de stockage. La ville étant située à 6 kilomètres de l'étang du Péquet, auquel j'étais affecté, nous dormions sur place, dans des cabanes de fortune sans eau courante. C'était dur, mais il me serait possible de gagner jusqu'à 200 lires sur ce seul mois d'août, ce qui me permettrait d'acheter vêtements et chaussures pour les 2 années à venir. Ce n'est cependant pas un endroit où faire vivre un bébé. À Aigues-Mortes, Giovanni trouve donc une prostituée française qui vient d'avoir un enfant et qui se déclare être capable d'en nourrir un deuxième, contre rémunération. La femme lui fait une bonne impression, avec son phrasé italien approximatif. De toute façon, il n'a pas le choix. Pour le levage du sel, les patrons rémunèrent les ouvriers au rendement de groupe. Si le groupe est homogène, que chacun abat une part équivalente de travail, tout se passe bien. Giovanni a de la chance. Il est affecté à une équipe ne comprenant que des Italiens et des Ardéchois, ces hommes vigoureux dont ils ne parlent pas la langue, mais dont les corps, taillés depuis l'enfance dans la douleur des rudes hivers, évoquent le sien. Un peu plus loin, au salin de la Fangouze, la situation est bien différente. Un groupe d'Italiens a été mélangé avec des trimards français, des vagabonds, des éclopés, des laissés-pour-compte souvent violents et belliqueux, jetés sur les routes par la pauvreté et la crise. Si la compagnie les embauche, c'est pour ne pas être accusé d'employer trop d'étrangers, l'opinion publique n'étant pas tendre avec les Italiens. Le 16 août 1893, une dispute éclate. Les ouvriers piémontais reprochent aux trimards de ne pas être assez efficaces, moquent leur infériorité physique, et les trimards répliquent en les insultant. « Babi, ours, macaroni, Christos. » En guise de vengeance, un des Italiens plonge sa chemise pleine de sueur et de sel dans un baquet d'eau destiné à la boisson. Terrible provocation dans ces lieux où l'eau douce est en quantité rationnée. Vexés et humiliés, des trimards reviennent à Aigues-Mortes et diffusent dans les rues un mensonge qui s'avérera lourd de conséquences. Ils affirment que des Italiens ont tué 3 Français. Cette fausse nouvelle souffle sur les braises d'une haine qui ne demandait qu'à exploser. La fièvre s'empare de la population et très vite, une foule compacte se forme, composée de plusieurs centaines d'individus armés de bâtons, couteaux, pelles et pierres. Une véritable chasse aux Italiens commence. Dès qu'un d'entre eux se trouve sur son passage, la meute s'acharne à coups de pied, de poing, on lapide, on détruit. Le soulèvement est si soudain que les 2 gendarmes et 20 douaniers appelés à la rescousse ne parviennent pas à le contenir. Quand l'information arrive en fin d'après-midi au marais du Pequet, Giovanni se met à trembler. Une terreur sourde envahit son cœur. Il a fait confiance à cette prostituée pour s'occuper de son fils quelques semaines. Mais en cas de menace, sera-t-elle capable de cacher à la foule déchaînée que l'enfant est italien ? Malgré ses camarades qui font tout pour le convaincre de ne pas se jeter dans la gueule du loup, Giovanni se met en route vers Aigues-Mortes. Ce qu'ils ignorent, c'est la présence du tatouage sur le bras gauche d'Angelo, cette preuve indélébile, ce nom qui le condamne. Je ne peux pas rester là sans agir, je dois sauver mon enfant. Giovanni marche sous un soleil noir qui l'écrase. À mesure qu'il approche, la clameur se fait plus forte. Les cris qui résonnent dans la ville lui donnent la chair de poule. La prostituée habite en dehors des remparts, une mansarde au sein d'une maison délabrée. Lorsqu'elle lui ouvre, l'effroi se lit sur son visage. Giovanni comprend tout de suite. Il hurle, lance un grand coup sur la porte vermoulue. Où est son bébé ? La jeune femme pleure, le supplie de lui pardonner, lui dit qu'elle n'a rien pu faire. Elle était à la boulangerie Fontaine, sur la place principale, lorsque les émeutes ont éclaté. Il faisait une telle chaleur, les bébés n'étaient vêtus que de leurs langes, bras nus. Elle a eu peur que quelqu'un remarque le tatouage d'Angelo, qu'on lui demande des comptes, qu'on la lynche, cette putain qui donne le sein à un bâtard italien. Alors elle s'est enfuie pour sauver son propre enfant. Elle a abandonné Angelo dans la boulangerie et depuis elle prie pour lui. Elle jure qu'elle prie pour qu'il ne lui arrive rien. Giovanni la regarde et n'a qu'une envie, la tuer de ses mains. Il serre les mâchoires, les poings prêts à s'abattre. Mais il n'est pas comme eux, pas comme ces bons citoyens qui massacrent des Italiens en hurlant leur colère. Alors il s'en va. Vers 1 h du matin, je parviens enfin à pénétrer l'enceinte de la ville. La foule s'est éclaircie, mais ceux qui restent font le siège de la boulangerie. 60 Italiens y sont réfugiés, je l'ai appris dans la soirée, et l'espoir est revenu au grand galop. Malgré les hurlements de la meute, malgré les jets de pierre, malgré les tentatives d'enfoncer la porte, la boulangère ne cède pas. Je la bénis, cette Adélaïde Fontaine si courageuse, mais je me sens tellement impuissant. Je sais bien que si je m'approche de la boutique, il ne faudra que quelques secondes pour que la foule se jette sur moi. Alors j'attends, l'angoisse au ventre. Au petit matin, les autorités parviennent à libérer les réfugiés de la boulangerie, mais Giovanni n'a aucun moyen de savoir où ils ont été transportés. Les gendarmes pourraient le renseigner s'il n'était pas débordé de nouveau par les émeutiers. Furieuse de n'avoir pu régler leur compte au rital de la boulangerie, la foule décide de se rendre au Salin, prenant au piège des dizaines de travailleurs italiens dans un fossé profond. La sauvagerie est sans limite. Les os se brisent, le sang ruisselle. Ce n'est que dans l'après-midi, après le drame, que 250 hommes de l'artillerie à cheval arrivent en renfort depuis Nîmes. Pour calmer la population, le maire de la ville fait placarder sur les murs une affiche proclamant que dès le lendemain, tout travail sera retiré au sujet de nationalité étrangère. Après une nouvelle nuit d'angoisse et d'attente, cachée dans la campagne environnante, Giovanni parvient enfin à approcher un gendarme. Je lui explique la situation. Il ne sait pas ce qu'est devenu mon petit garçon, mais une chose est certaine. Lorsque les forces de l'ordre sont entrées dans la boulangerie pour en faire sortir les Italiens, il n'y avait aucun bébé. Je commence à trembler. Il pose une main sur mon épaule, me conjure de garder espoir. Car Adélaïde Fontaine est partie en secret par une porte dérobée avec ses propres enfants, juste avant l'intervention. Elle seule peut savoir si mon fils est vivant. Il me faut près de 12 heures pour me rendre à pied jusqu'à l'adresse fournie par le gendarme dans le centre d'Arles, en n'empruntant que des chemins détournés. Parvenu à destination, je fais face à une femme d'une 50aine d'années, le regard dur et droit, ne montrant aucune émotion devant le piètre spectacle que je dois donner. Elle me demande, dans un italien impeccable, ce que je veux. Je lui parle de mon bébé. Elle me répond qu'il n'y a pas de bébé ici. Alors je lui montre mon tatouage et son regard change. Elle pousse un cri, effectue un signe de croix et referme la porte d'un coup sec. Mon monde s'écroule. Je n'ai rien avalé depuis 2 jours. Je suis épuisée. Je me laisse glisser le long du mur de l'entrée, la tête entre les jambes, pleurant mon fils disparu. La porte s'ouvre de nouveau. Adélaïde Fontaine me sourit. Dans ses bras, mon fils. Ton père, Madina. Lorsque la boulangère a décidé de tenir tête aux émeutiers, elle a tout de suite remarqué ce marmot abandonné dans sa boutique. Son tatouage laissant peu de doute sur son origine, elle l'a porté à l'étage, l'a vêtu d'un tricot ayant appartenu à l'un de ses 6 enfants afin de recouvrir ses bras. Elle l'a caché, protégé, nourri. Puis elle l'a emmené lorsqu'elle a pu s'échapper. Il n'était pas question pour elle de livrer ce bébé aux mains de la foule devenue folle. Alors tu vois, Madina, ma petite fille, mon amour, si ton père est resté en vie, c'est grâce à elle. Si tu es là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Dans les dernières lignes, Giovanni me confie être retourné à Aigues-Mortes bien plus tard. Mais la boulangerie avait fermé et Adélaïde Fontaine était décédée. Aussi n'a-t-il jamais pu la remercier à la hauteur de ce qu'elle a fait pour notre famille. Oui, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce au courage d'Adélaïde. Il n'est jamais trop tard pour dire merci.